Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique. La question des femmes et de l'égalité des sexes est un sujet sans cesse renouvelé. Si les inégalités entre hommes et femmes se sont légèrement réduites dans le monde au cours de la dernière décennie, le faible rythme de cette évolution laisse prévoir un délai de 118 années pour combler l'écart économique, selon le rapport annuel sur l'écart entre les genres publié récemment par le Forum économique mondial. Et pourtant, tout le monde gagnerait à davantage d'égalité, cette dernière étant facteur de croissance. Le PIB mondial pourrait ainsi augmenter de 12 000 milliards de dollars à l'horizon 2025, selon McKinsey Global Institute. C'est dire l'intérêt qu'il y a à agir dans des domaines allant de la lutte contre les violences faites aux femmes à l'accès au travail rémunéré et aux postes de direction, en passant par l'éducation, la protection légale et la représentation politique. À la veille de la journée des femmes du 8 mars, nos invités, Geneviève Garrigos, présidente d'Amnesty International France, bonjour.
Bonjour.
Muriel Salmona, psychiatre, psychotraumatologue, chercheuse en psychotraumatologie et en victimologie, auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier, Violence sexuelle, les 40 questions-réponses incontournables aux éditions d'UNO, bonjour.
Bonjour.
Et Laure Salmona, chargée de mission de l'association Mémoire traumatique et victimologie, coordinatrice de l'enquête intitulée Les Français, les représentations sur le viol et les violences sexuelles, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
De la nécessité de balayer devant notre porte, c'est ce que m'inspire l'enquête qui vient d'être rendue publique, réalisée par l'Institut Ipsos et l'association Mémoire traumatique et victimologie dont vous êtes fondatrice, Muriel Salmona. Pour la première fois en France, vous avez cherché à établir une photographie précise des représentations que les Français et les Françaises peuvent avoir sur le viol et les violences sexuelles, en ayant pour but d'évaluer l'impact des campagnes d'information et de sensibilisation sur cette thématique et d'analyser sur quels axes prioritaires les efforts doivent être développés afin de mieux lutter contre ces violences. Alors que le viol est reconnu par la loi comme un crime depuis plus de 30 ans, qu'il mobilise contre lui sans relâche associations, plans gouvernementaux, campagnes, 4 Français sur 10 estiment toujours que la responsabilité du violeur est atténuée si la victime a une attitude provocante, comme par exemple une jupe courte. Sur le même registre, l'enquête révèle aussi que pour 61% des Français et 65% des Françaises, un homme a plus de mal à maîtriser son désir sexuel qu'une femme, et nous apprend combien perdure le mythe du violeur inconnu dans une rue sombre, alors que la plupart des viols sont commis par des proches de la victime. Première question, pourquoi cette enquête? Mais je pense que l'introduction nous donne la réponse. Mais surtout, comment expliquer ce degré de minoration du crime que constitue le viol, sa banalisation au sein de notre société? Comment expliquer cette méconnaissance de la réalité des violences sexuelles? Est-ce qu'on peut parler de méconnaissance ou de déni, Muriel Salmona?
Alors, les deux. Il y a à la fois un déni, puis qui est bien représenté par justement cette adhésion à tous les mythes de la culture qu'on appelle la culture du viol, et puis aussi une méconnaissance à la fois des chiffres, une méconnaissance de la loi, une méconnaissance de l'impact des mécanismes, en tout cas des violences, enfin des mécanismes psychotraumatiques, parce que l'impact là, de façon un peu surprenante, 95% des Français et des Françaises pensent que ça a une conséquence grave, le viol. Mais le problème, c'est que ils ont beaucoup de mal à reconnaître ce qui est un viol. Ils sont encore très parasités par justement la culture du viol qui va renvoyer que bah non, c'est pas un viol, ou c'est pas vraiment un viol, ou c'est pas si grave, c'est peut-être un malentendu. Et finalement, on n'est pas dans une situation qui est nommée, qui est identifiée comme un viol. Et puis la loi, les méconnaissances sur la loi. Donc on se retrouve avec un niveau de déni qui est très préoccupant, qui n'a pas été une surprise pour nous, même si apparemment ça a fait un peu un état de choc auprès de pas mal de gens. Parce que nous, on le sait, parce qu'on est vraiment sur le terrain, à voir à quel point les victimes de violences sexuelles sont seules, abandonnées. Et notre première enquête en 2015 sur l'impact des violences sexuelles de l'enfance à l'âge adulte, soutenue par l'UNICEF, avait bien montré que 83% des personnes qui avaient participé à l'enquête disaient n'avoir jamais été ni protégées, ni reconnues en tant que victime. Donc voilà, c'est contre ça qu'il faut vraiment lutter absolument. Et puis contre l'impunité, qui est vraiment extrêmement présente, puisque seuls 1% des viols vont faire l'objet de condamnation.
On développera tout ça. Laure Salmona, je me tourne vers vous, parce que finalement, vous avez coordonné cette enquête. Pour ce qui est... Peut-être c'est important de détailler un tout petit peu des fausses représentations stéréotypées sur les victimes et les agresseurs. Donc on l'a dit, les Français affichent un fort niveau de méconnaissance. Pour en citer quelques-uns, beaucoup de Français pensent que c'est à l'adolescence que l'on court le plus de risques d'être violé. Beaucoup de Français pensent que les victimes de viol connaissent rarement leur agresseur, c'est faux. Beaucoup de Français pensent que l'espace public est un lieu à haut risque, loin devant le cercle le familial. Et comme le disait Muriel Salmona, la part des victimes qui portent plainte est largement surévaluée. Laure Salmona.
Oui, alors ça permet quelque part d'escamoter la grande majorité des viols. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on pense qu'effectivement un vrai viol, ça va être sous la menace d'une arme par un inconnu dans l'espace public, on escamote la grande majorité des viols qui sont des viols qui se produisent malheureusement dans la sphère familiale, quand on est enfant le plus souvent, et par un membre de sa famille lorsqu'on est enfant, et par un conjoint ou un ex-conjoint lorsqu'on est adulte. Un viol sur deux est un viol conjugal, et dans plus de la moitié des cas, quand la victime est enfant, elle a été agressée par un membre de sa famille. Ça, c'est les résultats de notre précédente enquête Impact des violences sexuelles de l'enfance à l'âge adulte en 2015. Donc, on voit qu'on est très loin du mythe du viol par un inconnu. Et du coup, ça permet aussi de... quelque part, de faire taire toutes ces victimes qui sont victimes d'un membre de leur famille, qui sont victimes de leur conjoint, et d'organiser l'impunité de tous ces agresseurs. Et voilà, et on a tendance à s'imaginer que le violeur est un malade mental, un psychopathe. Mais non, c'est monsieur tout le monde. Et le plus souvent, ce sont des hommes. Hein, dans plus de 90% des cas, les violeurs sont des hommes. Ce sont parfois aussi des femmes sur des jeunes enfants, mais c'est moins de 4%. Les violeurs, malheureusement, sont partout.
Geneviève Garrigos, un commentaire sur ce qui s'est dit jusqu'à présent.
Oui, et ça, on le voit, je dirais, pratiquement au niveau mondial. C'est que si on commence, en fonction des pays, à reconnaître justement la violence dans la rue, il y a de nombreux exemples en la matière, la question de la violence au sein de la famille, et notamment du viol conjugal, est quelque chose qui est très difficile à faire admettre, parce que, quelque part, comme en cas de conflit, la femme était un butin de guerre, et le viol était reconnu en ce sens-là, eh bien, au sein de la famille, la femme reste une propriété. Et il y a un cas très intéressant, c'est par exemple en Tunisie. En Tunisie, qui est un pays où, pour les droits des femmes, qui a été quand même très avancé, puisque le droit à l'avortement, à la contraception existe depuis 1973, il y a plus de 40% des femmes qui sont avocates, plus de 30% qui sont juges, etc. Il y a une reconnaissance de la violence, justement, physique et sexuelle. Par contre, le viol conjugal n'est pas encore reconnu. Et si 73% des femmes, c'est le chiffre, disent qu'elles ont été violées au sein de la famille par leur partenaire, eh bien elles ne portent pas de plainte parce que c'est normal. Et pourquoi c'est normal ? C'est là où on retombe justement dans ces notions. C'est que, d'après le code de la famille, un homme ne peut pas avoir des relations sexuelles avec sa femme tant qu'il n'a pas payé de dot. Mais du moment qu'il a payé la dot, à ce moment-là, elle lui appartient et la femme, eh bien, c'est normal, elle subit et elle ne dit rien. Donc on voit bien combien c'est ancré dans cette notion de pouvoir au sein de la famille.
Et l'ONU qui se mobilise aussi, des études qui ont été faites récemment, en tout cas ces dernières années, et effectivement, du côté masculin, bien ces viols ou en tout cas ces violences, c'est vrai que les hommes les considèrent comme indus dans la cellule familiale, et que les viols conjugaux ont longtemps été maquillés en devoir conjugal. Muriel Salmona.
Oui, je voulais rebondir sur même les chiffres, parce qu'en France, donc vraiment, le viol conjugal a été vraiment reconnu par la justice, plus précisément qu'en 1992, donc c'est vraiment très récent, et c'est qu'en 2010 qu'on a considéré qu'il n'y avait pas de consentement a priori de la femme à des actes sexuels au sein de son couple. Et c'est seulement 2% actuellement des femmes victimes de viols conjugaux qui portent plainte. Alors que pour l'ensemble des viols, c'est 10%. Alors même si c'est un chiffre déjà très bas, pour les viols conjugaux, c'est encore plus bas. Et puis pour rebondir aussi sur sur ce que vous veniez de dire par rapport aux violeurs, il y a eu une grande étude de l'ONU qui a interrogé une grande quantité d'hommes, particulièrement dans les pays d'Asie, pour leur demander aussi pourquoi ils avaient violé. 25% avaient reconnu avoir commis un viol, le plus souvent sur une compagne, dans le cadre conjugal. Et quand on leur demandait pourquoi, 71% disaient que ils avaient bien le droit d'eux. C'était leur réponse. 51%, c'est pour s'amuser, il faut bien se détendre. Et 31%, c'est pour punir, pour soumettre. Voilà, donc ça c'est la réalité du côté des agresseurs et du côté des victimes. Ce qu'on leur renvoie, c'est que c'est elles qui l'ont bien cherché, c'est elles qui sont coupables, c'est elles qui n'ont pas fait ce qu'il fallait, c'est elles qui se sont pas protégées. Et on voit le déséquilibre monstrueux entre ce que peuvent dire les agresseurs et ce qu'on peut entendre de la société qui va mettre continuellement en cause les victimes. Et donc c'est vraiment là le principe même de la culture du viol, et même voir dire que c'est elles qui le veulent bien en fait, puisque elles partent pas, elles crient pas, elles se défendent pas. Enfin, ça c'est toujours les mêmes stéréotypes qu'on renvoie aux victimes.
Géopolitique. Marie-France Chatin.
Laure Salmona, donc cette enquête, les Français, les représentations sur le viol et les violences sexuelles. Moi, j'ai cette question à vous poser. Finalement, en quoi les résultats de cette étude sont inquiétants?
Je dirais il y a plusieurs choses. Déjà, il y a cette volonté, pour rebondir sur ce que disait Muriel, il y a vraiment cette volonté aussi de mettre en scène la confusion entre violence et domination, ce qu'est en fait la violence sexuelle, et la sexualité. Et quand on voit des résultats comme plus de 2/3 des Français et des Françaises qui pensent que les hommes ont plus de mal à maîtriser leur désir sexuel que les femmes, on voit bien qu'on est dans la construction de toutes sortes de stéréotypes qui vont permettre d'excuser le viol et de le faire passer pour autre chose qu'une domination systémique des hommes sur les femmes. La deuxième chose, c'est que justement les femmes adhèrent autant que les hommes à ces représentations, voire même pour certaines représentations plus.
Ça, c'est une grosse surprise.
Oui, c'est une surprise, et c'est bien la preuve qu'elles sont totalement colonisées par ces fausses représentations, qu'il y a un vrai déficit d'éducation à l'égalité à partir du plus jeune âge, un vrai déficit aussi d'offres leur permettant de s'identifier. Tout simplement une identification à des images, à des comme des femmes fortes, comme des femmes qui peuvent voilà.
Donc finalement cette dichotomie entre ce qui est montré et ce qui est vécu intérieur.
Voilà, avoir un pouvoir d'agir, etc. Et enfin, c'est aussi pour tous les Français, il y a un vrai déficit d'information sur les droits. Et ça, je pense que, enfin, c'est quelque chose que l'éducation nationale devrait en France mettre en place. C'est-à-dire des cours, tout simplement, pour informer toutes et tous sur leurs droits, sur la loi et sur leurs recours.
Ça fait partie des recommandations que vous faites, Muriel Salmona.
Oui, avec effectivement l'information sur les droits, l'information sur la notion de respect des droits de l'autre, bien entendu, la notion du respect du consentement. Qu'est-ce qu'un consentement libre et éclairé? Une éducation à l'égalité, bien entendu, femmes-hommes. Et puis vraiment une lutte vraiment très très importante contre tout ce qui est propos sexistes. Tout ce qui est vraiment discrimination sexiste, et ça à tout niveau de la société. Il faut qu'il y ait vraiment des campagnes, des informations, et ce qu'on demande aussi de façon vraiment là, c'est, notre étude le montre, à quel point il faut aussi outiller tout le monde, c'est-à-dire qu'il y ait des formations tous les professionnels pour déconstruire tous ces stéréotypes, comprendre ce qui se passe, comprendre les réactions des victimes de violences, et en fait changer un peu la donne pour que vraiment il y ait une réelle solidarité vis-à-vis des victimes, parce que c'est ce qui manque en fait. C'est-à-dire que effectivement comme ça, directement les gens disent oui c'est grave le viol, mais en revanche après quand ils ont une victime de viol quelqu'un qui dit qu'il a été violé en face d'eux, eh ben c'est jamais, elle correspond jamais à justement ce mythe de la personne qui a été vraiment victime de viol. Donc elle n'a jamais accès à une vraie solidarité, à un vrai accompagnement, à une justice et à des réparations, puisque là on est vraiment dans un état, c'est une situation qui est un véritable scandale. Hein.
Mais je pense que, alors justement, je me tourne vers vous, Geneviève Garrigo, ce qui est important dans ce que vient de dire Muriel Salvana, dans cette nécessité de davantage de solidarité avec les victimes, c'est que dans le cas des violences conjugales, des viols, etc., la victime est presque coupable.
Oui, et ça, là encore, on le voit dans différentes situations, y compris dans les situations de conflit, y compris dans les situations, par exemple, de mouvement des réfugiés et des migrants. C'est-à-dire que, on va automatiquement rendre la faute sur la femme. Et en cela, derrière, il y a aussi la question de l'espace public, c'est-à-dire que restez chez vous, il ne vous arrivera rien, même si on voit très bien à travers les chiffres que c'est faux. Mais c'est également cela, c'est-à-dire que c'est la femme qui s'expose, c'est la femme qui a provoqué. Et je voudrais prendre un autre exemple et qui montre bien aussi cette guerre de l'espace public et de l'espace politique. On voit bien combien il est difficile, même en France, d'arriver à une égalité homme-femme au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, au niveau des différentes instances. Voilà, c'est ça. Et qui est quand même symptomatique. Mais quand vous regardez, par exemple, ce qui s'est passé en Égypte, et qui continue. Parce que là, on parle du viol. Mais ce qu'on oublie, c'est, et pas Muriel, ni Laure, bien évidemment, ni vous, mais c'est que les violences sexuelles, c'est aussi le harcèlement de rue. Et le harcèlement de rue est tout à fait symptomatique, justement, de cette prise de pouvoir. Donc, en Égypte, quand il y a eu les manifestations, Place Tahrir, il y a 5 ans, les femmes sont venues, parce qu'elles veulent, elles se battent. Hein. Il faut voir qu'elles sont extrêmement combatives. On dit toujours très faibles, mais il faut voir la volonté qu'elles ont à se battre. Qu'est-ce qui a été fait ? On les a harcelées, elles ont eu des attouchements, elles ont été violées. Et quand il y a eu cette vingtaine de femmes qui a été arrêtée, on leur a fait subir des tests de virginité. Parce que sinon, ça voulait dire qu'elles étaient des prostituées. Donc vous voyez combien aussi il y a cette force pour, à la fois à l'intérieur de la famille, pour qu'elles y restent, mais aussi pour les exclure de l'espace public et justement qu'elles puissent combattre toutes ces violences. Et donc, on les culpabilise, c'est de leur faute.
Et l'exemple que vous citez à propos de l'Égypte m'inspire un autre exemple plus récent, fin 2015, début 2016, en Allemagne, à Cologne, où effectivement, sur la place publique, des femmes ont été molestées, voire davantage. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est le temps que ces incidents ont mis à être acceptés, reçus, entendus. Il y a toujours du doute, il y a toujours des interrogations. La femme n'est pas forcément crue sur le champ. Un commentaire peut-être, Muriel Salmona, pour terminer cette première partie d'émission.
Là, on est vraiment au cœur de ce qu'on appelle la culture du viol, hein, c'est-à-dire qui se définit en fait sur 3 axes. C'est non, en fait, c'est pas vraiment un viol. Ça n'a pas existé, ou la victime, elle raconte n'importe quoi. Le deuxième axe, c'est elle l'a bien cherché, elle l'a provoqué, elle n'a pas fait ce qu'il fallait, elle ne s'est pas suffisamment protégée. Et le troisième, c'est peut-être qu'elle a bien voulu, que finalement, dire non, ça peut vouloir dire oui, céder, ça peut être consentir. Et c'est vraiment là-dessus que toujours, on se retrouve avec une mise en cause des victimes et avec, en fait, une banalisation, une minimisation, voire une tolérance totale à ce qui leur arrive, tout en disant par ailleurs, oui, c'est grave, mais ce qui vous arrive, vous, non. C'est pas grave parce que vous l'avez cherché, vous avez pas fait ce qu'il fallait. Et puis quand on est une femme, on doit bien comprendre que on doit se protéger. Là, c'est un peu comme si c'était à la femme et seulement à elle de faire attention, de se protéger. Et on met le focus sur elle, on met pas le focus sur l'agresseur. Ça, c'est vraiment typique. Il faut absolument changer là de registre et voire même par rapport à la loi, on va chercher si la femme a été consentante ou pas, voire même si elle a été consentante ou pas alors qu'elle a 10 ans. Enfin, quelque chose de complètement fou. Et on on va beaucoup moins chercher sur ce qu'a voulu faire l'agresseur, sur son intentionnalité froide de détruire, d'agresser. Et c'est toujours ce système où là, il faut absolument arrêter de dire aux femmes qu'il faut que ce soit elles qui se protègent. C'est à elles de dire non, c'est à elles de parler, c'est à elles. Non, il faut que vraiment la société décide d'arrêter, ne plus tolérer cette situation.
Géopolitique, nous retrouvons nos invités Geneviève Garrigos, Muriel Salmona et Laure Salmona dans quelques instants. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique à la veille de la journée des femmes du 8 mars. Nous retrouvons nos invités Geneviève Garrigos, présidente d'Amnesty International France, Muriel Salmona, psychiatre, psychotraumatologue, chercheuse en psychotraumatologie et en victimologie, auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier, Violence sexuelle, les 40 questions-réponses incontournables aux éditions d'UNO, et Laure Salmona, chargée de mission de l'association Mémoire traumatique et victimologie, coordinatrice de l'enquête intitulée Les Français et les représentations sur le viol et les violences sexuelles, qui vient d'être rendu public. Geneviève Garrigos, nous avons terminé la première partie de l'émission sur vous évoquiez la place Tahrir et ce qui s'est passé il y a 5 ans en Égypte, plus récemment Cologne. Le harcèlement de rue est quelque chose qui est assez prégnant finalement, et en tout cas il n'y a pas que dans les pays dits du Sud. Dans nos pays dits civilisés, on retrouve exactement les mêmes données. C'est pour ça qu'il était aussi intéressant de se pencher sur cette enquête concernant la France, qui reflète tout de même beaucoup de choses et des leçons à en tirer. Geneviève Garrigos.
Oui, et ce qui s'est passé à Cologne et comment ça a été traité est très intéressant, parce que on a tout de suite associé cela au fait que les personnes migrantes, réfugiées qui étaient là et qui ont été identifiées avaient des problèmes de représentation de la femme. Mais ce qui est très intéressant, c'est que si cela est tout à fait condamnable, quand il s'agit du harcèlement de rue, dans les transports en commun, perpétré en France par des Français, on n'en parle plus. Et là, on peut se poser, mais quelle est la représentation qui fait que, quand c'est un étranger, c'est quelque chose qui doit être condamné, et c'est vrai que ça doit être condamné, mais pourquoi, quand c'est ici, ce n'est plus une question culturelle, ce n'est plus une question, justement, d'éducation. Et là, il y a un problème de double standard, et pour les femmes, c'est extrêmement troublant.
Qu'est-ce que l'on sait, Muriel Salmona, Laure Salmona, de la réalité du harcèlement de rue en France et la question des transports en commun, Muriel Salmona?
Le harcèlement de rue, les violences sexuelles et sexistes dans les transports en commun, ce sont des phénomènes massifs. Aussitôt qu'on fait des enquêtes, des études, on est dans des chiffres qui vont de 60 à 100% des femmes qui ont subi ce harcèlement. Et les hommes qui exercent ce harcèlement ou ces violences appartiennent à tous les milieux. Et ça, c'est vraiment important de vraiment insister là-dessus, parce que là aussi, c'est un stéréotype de l'agresseur qui ne serait que quelqu'un issu, effectivement, soit de milieux défavorisés, soit issu d'une autre culture, etc. C'est faux. Et malheureusement, sur la justice, ces idées fausses sont aussi prégnantes, puisque dans les 1% seulement, par exemple, des agresseurs, des violeurs, il y a une surreprésentation dans les condamnations de personnes issues de milieux défavorisés, alors que le viol existe dans tous les milieux. Donc il faut vraiment déconstruire aussi cette réalité-là. Et juste aussi pour rajouter, le fait que ça touche quasiment toutes les femmes, ça montre bien aussi que c'est pas ce qu'elles font, ce qu'elles sont, comment elles sont, qui est en cause, que c'est un phénomène endémique, et que c'est pas parce qu'elles sont séduisantes, elles ont une tenue sexy, elles seraient provocantes, comme ce qu'on entend continuellement. Non, et d'ailleurs, c'est plus les femmes sont en situation de vulnérabilité, plus elles sont jeunes, ce sont les enfants qui sont les plus touchés, c'est les personnes handicapées qui subissent 4 fois plus de violences sexuelles. Donc là aussi, ça démontre que ce n'est pas du tout de l'ordre du désir, être désirable et désiré, que là, c'est vraiment une volonté d'attaquer, de détruire, de soumettre.
C'est bien un quotidien, Geneviève Garrigos.
Oui, et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir qu'il y a des pays où le fait d'interpeller les femmes dans la rue, Et c'est pas uniquement là aussi dans certains pays, ça c'est quelque chose d'assez général, hein. Et on voit bien dans la culture latine notamment comment le fait de soi-disant dire des compliments aux femmes dans la rue, ça doit les flatter. Et si on n'en a pas, et c'est là aussi où il y a une aversion, c'est parce qu'on est moche, c'est parce qu'on ne mérite pas, etc. Donc, on en arrive presque à culpabiliser les femmes qui ne se font pas agresser verbalement dans la rue. Et c'est pour dire la perversité du système. Et c'est vrai, et combien de fois même on a entendu oh, « mais elle se plaint, mais elle qui est si moche, si ça pouvait lui arriver. » Et ça, c'est aussi voir ce pouvoir de destruction que même ces propos peuvent avoir, et pas uniquement le viol au sens où on l'entend généralement, mais toute agression sexuelle, y compris verbale.
Laure Salmona, vous souhaitez réagir ?
Oui, c'est toujours le même mécanisme d'invisibilisation des violences. C'est-à-dire que soit ce sont des compliments, et on devrait être contente de les recevoir, soit c'est le fait des gens qui ne seraient pas, entre guillemets, civilisés. Mais ça n'est pas le cas. Et la grande majorité du harcèlement de rue, d'ailleurs, s'exerce sur des mineurs ou des très jeunes femmes, parce que, justement, elles sont plus vulnérables. Et c'est un moyen, effectivement, de pousser les femmes hors de l'espace public, de les pousser à s'autocontrôler en permanence. Et si jamais elles faillissent à cet autocontrôle, on pourra les pointer du doigt et leur dire « c'est ta faute, tu l'as cherché, qu'est-ce que tu faisais à 3h du matin dans ce quartier-là ? T'es folle !»
Oui, tu le savais bien. C'est ça, c'est vraiment « tu le savais bien », c'est vraiment l'éducation des filles qui se fait sur ce mode-là. C'est-à-dire qu'il faut faire attention, c'est un danger permanent, une sorte de fatalité. Ce qui est faux. Donc, les femmes doivent en fait s'auto-censurer, être tout le temps sur leur garde. Et si elles sont pas capables de se protéger, c'est de leur faute. Et pour aussi rebondir sur ce détournement qu'il peut y avoir, c'est des compliments, mais ça peut être aussi ces femmes qui ne sont pas du tout capables de comprendre l'humour. Et ça, c'est la problématique aussi de l'harcèlement au travail, l'harcèlement sexuel au travail. Là aussi, il y a cette volonté de chasser les femmes aussi de certains postes. Ça fait partie aussi de cette inégalité et de cette discrimination que subissent les femmes dans tous les milieux, dans tous les univers, en fait.
Et il y a aussi, Laure Salmona, vous travaillez dessus, le cyberharcèlement. On parlait du harcèlement de rue. Donc finalement, c'est l'espace public, mais au sens le plus large du terme. Enfin, je veux dire, on sait même plus ce qui est privé-public et...
Oui, en tant également que membre du collectif féministe contre le cyberharcèlement, il y a l'espace public, il y a aussi le cyberespace public, qui est un espace où beaucoup de femmes ont pu découvrir leur féminisme, le féminisme, leur pouvoir d'agir. Mais malheureusement, toutes ces femmes qui essayent d'écrire, de partager, de militer via les outils digitaux, elles vont être de la même manière poussées hors de cet espace. Elles vont être insultées, elles vont être harcelées, on va publier des photos d'elles sexualisées. On va tout faire pour les punir d'avoir voulu dénoncer, prendre la parole ou dire qu'elles pouvaient agir. Et on voit bien d'ailleurs ce qui se passe même à l'Assemblée nationale. Quand une femme politique, parce qu'elle porte une robe, va être sifflée, c'est dans tous les milieux, c'est partout. Et c'est cette volonté d'expulser les femmes de l'espace politique.
Muriel Salmona.
Oui, je voulais aussi rebondir sur le fait que celles qui sont les plus attaquées, les plus discriminées, ça rentre dans le cadre d'une sorte de hiérarchisation sociale où suivant un peu le niveau où vous êtes, vous allez subir de plus en plus de violences avec une sorte de pseudo niveau de valeur et les femmes racisées, les femmes issues de l'immigration vont subir aussi beaucoup plus d'attaques qu'une femme blanche intégrée. Pareil pour les femmes handicapées, le handicap, ou même une femme qui a un léger surpoids, elle va se retrouver attaquée, discriminée, avec des violences sexuelles et des arguments qui sont des arguments dégradants, humiliants. La violence sexuelle, c'est une sorte de privilège que s'octroie des hommes qui se considèrent dominants et qui vont ensuite décider de qui a des droits et a de la valeur. Et ça fonctionne sur ce système-là.
Alors, Geneviève Garrigos, oui.
Oui, et par exemple, justement, par rapport à cette notion de un peu de profilage que vont faire les hommes, il faut revenir sur la question des femmes autochtones au Canada et aux États-Unis. Nous, on a mené des recherches, justement, par rapport aux violences sexuelles que subissent ces femmes, et on s'est aperçu sur les femmes autochtones, elles avaient 2,5 fois plus de probabilité d'être violées que les autres femmes aux États-Unis, que pour beaucoup, elles avaient été violées plusieurs fois, et que quand elles portaient plainte, eh bien, elles étaient encore plus rejetées. L'exemple ultime, c'est le cas des Stolen Sisters au Canada. Hein. C'est ces centaines de femmes qui ont disparu, autochtones. On sait que c'est lié à des violences sexuelles et pour lesquelles il n'y a pas d'enquête parce que finalement, ce sont des femmes autochtones. Donc, on voit bien que même dans ce qu'on appelle nos démocraties, où il y a des standards de droit, où les femmes ont un espace public, on arrive à segmenter et il y a des personnes qui sont beaucoup plus victimes que d'autres.
Muriel Salmona.
Oui, et je voulais rajouter aussi en France, ne pas oublier aussi les personnes en situation vraiment de grande marginalisation et d'exclusion, ne pas oublier les personnes qui sont sans toit, qui sont à la rue. Les femmes qui sont à la rue, elles ont un risque massif d'être violées. Et d'ailleurs, ce risque-là est un déterminant principal de leur espérance de vie. On sait que si les femmes à la rue ont moins d'espérance de vie, c'est parce qu'elles subissent des violences sexuelles, des viols. Et puis les personnes prostituées, il ne faut pas les oublier, qui elles subissent viol sur viol. Alors il y a déjà la violence sexuelle que représente la prostitution et des viols par-dessus. Et elles sont près de 70% à subir des viols. Sur quoi repose la violence sexuelle? Ça repose vraiment sur un système de domination, d'hiérarchisation des personnes et de remise en cause totale des droits de chacun et de la dignité de chacun.
Et le rapport de l'ONU sur les femmes dans le monde, rendu public en octobre de l'année dernière, en octobre 2015, qui montrait que, effectivement, avec ce que vous détaillez là, Muriel Salmona, finalement, un tiers des femmes ont été victimes de violences physiques ou sexuelles à un moment de leur vie. C'est évidemment beaucoup.
Sans oublier vraiment les enfants, les mineurs. Donc c'est 20% des filles, avec les chiffres de l'ONU, c'est 20% des filles dans le monde qui ont subi des violences sexuelles et 7,5% des garçons. Nous, notre enquête de l'année dernière, de 2015, avait montré que sur l'ensemble des violences sexuelles, c'était 81% des violences sexuelles qui démarraient avant 18 ans, 51% avant 11 ans, 21% avant 6 ans. Donc c'est vraiment la loi du plus fort. C'est effarant. Au sein de toutes les civilisations, quelle que soit la hauteur qu'on leur donne ou la valeur qu'on leur donne, il y a des privilèges monstrueux. On peut détruire des personnes, on peut chasser. Enfin, c'est un peu comme s'il y avait cette possibilité de prédation et d'exercer les violences les plus graves, parce qu'il faut le rappeler, le viol, c'est équivalent à une torture. Les conséquences psychotraumatiques sont énorme, avoir été violée dans l'enfance, par exemple. C'est le déterminant principal de la santé, même 50 ans après, si rien n'est fait pour accompagner les victimes.
Alors, quelques mots sur la volonté politique de faire en sorte que les choses changent. Toujours d'après l'ONU, il y a tout de même les attitudes qui évoluent envers la violence conjugale ou sexuelle, et tout cela commence à changer dans presque tous les pays où l'information sur ce problème circule. Alors, je ne sais pas quel est le véritable rapport. En tout cas, au moins 119 pays ont désormais des lois sur la violence domestique, 125 sur le harcèlement sexuel, 52 sur le viol conjugal. Quelle lecture faire de ces chiffres, bien évidemment, Geneviève Garrigaud, c'est ce qu'il y a, une volonté politique pour changer les comportements et pour qu'il y ait une meilleure prise en compte de la situation.
C'est évident que ce qui est demandé, ce sont des campagnes de sensibilisation. On voit même dans des pays où il y a des lois qui sont adoptées dans ce sens-là. Hein. Je peux parler par exemple de l'Arabie Saoudite. En 2013, ils ont adopté une loi dans ce sens. Ils ont même mené une campagne de sensibilisation. Par contre, derrière, si les personnes ne sont pas en condition de porter plainte, si derrière, il n'y a pas l'assurance que cette plainte va être reçue, elle va donner lieu à une enquête et on va lutter contre l'impunité, les mentalités ne changeront pas. Des lois, c'est bien. Déjà, c'est une reconnaissance de ces violences, de ces violations, mais il faut la volonté politique vraiment de prise en charge totale et d'assurer la protection, la plainte et lutter contre l'impunité. Or, aujourd'hui, soit on manque de moyens, soit on manque de volonté politique et généralement les deux vont ensemble.
On manque de moyens et pourtant tout cela coûte très cher et vous en savez quelque chose, oui. Muriel Salmona.
Oui, tout cela coûte très cher et je voulais justement dire aussi à quel point cela coûte cher en termes de santé publique. Donc c'est un des déterminants principaux de la santé des femmes et des hommes aussi quand ils ont subi des violences sexuelles pendant l'enfance, puisqu'ils sont nombreux à l'avoir subi, et qu'il n'y a pas de soins.
et que ça, c'est aussi, ça fait partie de la protection, de l'accompagnement et des droits. C'est le droit à la santé, le fait qu'on ne y ait pas de perte de chance pour les personnes. Or, des troubles psychotraumatiques qui se développent sur les victimes vont entraîner des risques pour la santé des personnes énormes, avec une victime sur deux qui va faire des tentatives de suicide, une victime sur deux qui va avoir des conduites addictives pour pouvoir survivre, des risques physiques très très importants au niveau cardiovasculaire, immunitaire, risque de cancer, de développer des cancers. Donc on l'a vu avec notre enquête, c'est 95% des victimes de violences sexuelles qui disaient que ça avait un impact sur leur santé mentale, 70% sur leur santé physique. Et puis dernière chose, pour la justice, tant que les victimes ne sont pas prises en charge, elles ont des troubles psychotraumatiques, elles sont déconnectées, elles ont soit une mémoire traumatique qui les empêche de parler, soit elles sont complètement anesthésiées, déconnectées, et elles peuvent même pas identifier, elles sont pas en état de pouvoir faire valoir leurs droits. Tant qu'elles sont pas traitées, elles vont pas pouvoir avoir accès à la justice. Et en plus, on va leur reprocher les troubles psychotraumatiques qui sont normaux. C'est-à-dire, on va leur dire, mais pourquoi vous vous êtes pas défendu, pourquoi vous avez pas crié alors qu'il y a un phénomène de sidération, pourquoi vous êtes resté si longtemps avec l'agresseur, pourquoi vous avez rien fait alors qu'il y a des phénomènes d'emprise, des phénomènes de dissociation qui déconnectent les victimes, qui vont mettre beaucoup de temps avant d'identifier ce qu'elles ont subi, parce qu'elles sont comme des fantômes pendant un temps très très long. Et là, la Convention européenne d'Istanbul demande expressément que soient reconnus tous ces troubles dans le cadre des prises en charge et des procédures judiciaires. C'est important, ça a été fait. La France a ratifié, a signé cette convention, et donc elle est active depuis 2014. Et la Convention aussi européenne d'Istanbul demande la mise en place de centres de soins par bassin de 200 000 personnes ou par département, de centres de prise en charge et de soins pluridisciplinaires avec des professionnels formés. Or, en France, toujours en France, on ne forme pas les médecins à prendre en charge les victimes de violences. Les victimes ne sont pas aussi soignées, et que ça, c'est un scandale de santé publique. Et là, il y a une nécessité aussi de volonté politique. Et ça va avec le manque de solidarité vis-à-vis des victimes. Par exemple, pour les victimes d'attentats, etc., tout le monde se précipite. Alors, c'est pas génial, non plus, la prise en charge, mais au moins, on considère qu'elles doivent être prises en charge. Les victimes de viol, à elles de se réparer toutes seules. Et si elles le font pas bien, en plus, on va leur tomber dessus.
Est-ce qu'on a une idée, Muriel Salmona, du coût pour la société, ne serait-ce que la société française, de ces violences
Alors, il y a des évaluations, on a eu des évaluations, mais en tout cas, ça se présente en plusieurs milliards, en tout cas, par an, qui sont directement liés au coût des violences. Et je pense que c'est sous-estimé, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont pas pris en compte. Et puis, là, c'était pour les violences conjugales que ça avait été étudié. Si on rajoute les violences sexuelles qui sont beaucoup plus prégnantes et qui entraînent beaucoup plus de conséquences, je pense qu'on devrait être autour de plus, en tout cas, au moins une dizaine de milliards, voire beaucoup plus. Parce qu'il y a aussi l'impact sur tout ce qui est vie professionnelle, les arrêts de travail, les personnes qui ont un handicap, qui vont ne plus pouvoir travailler. Enfin, Geneviève en parlait là, lors de notre restitution de notre enquête, à quel point ça va aussi porter atteinte à tout l'ensemble de la société, et à tous les proches aussi. Enfin, ça impacte en domino tout le monde.
De la nécessité, peut-être pour conclure, de ces campagnes d'information qu'il faut faire. En tout cas, c'est tout à fait intéressant d'avoir pu se poser sur le cas français afin d'éclairer et de remettre les choses et de stigmatiser personne, mais en tout cas de montrer que voilà, il y a beaucoup à faire chez nous aussi, et c'est peut-être par cela qu'il faut commencer.
Oui, et d'ailleurs, effectivement, aujourd'hui on reconnaît que le viol est une arme de guerre, que les violences sexuelles sont une arme de guerre, parce que non seulement ça détruit les femmes, mais ça détruit les sociétés. Néanmoins, quand ça, c'est pour les situations de conflit. Quand on n'est plus en situation de conflit, c'est une question de pulsion sexuelle. Or, la femme ou la personne qui a été violée, elle est détruite exactement de la même façon qu'en situation de guerre. Et le fait de ne pas prendre cela en compte, c'est nier aussi l'impact que cela peut avoir sur la société en termes de destruction. Et ça, on le voit plus particulièrement, là encore, dans les familles monoparentales, dans les milieux les plus vulnérables, où les femmes, en plus, vont avoir cette pression tensions économiques et financières, mais aussi dans les cadres, dans les contextes de personnes migrantes ou réfugiées, où là encore, on détruit. Et il faut arrêter de considérer que finalement tout ça, ce n'est pas grave. Le viol est une torture, les violences sexuelles sont une forme de torture, c'est une arme de guerre en zone de conflit, mais c'est aussi une arme de destruction ici.
Merci. C'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités Geneviève Garrigos, présidente d'Amnesty International France, Muriel Salmona, psychiatre, psychotraumatologue, chercheuse en psychotraumatologie et en victimologie, auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier « Violence sexuelle, les 40 questions-réponses incontournables » aux éditions d'Uno, et Laure Salmona, chargée mission de l'association Mémoire traumatique et victimologie, coordinatrice de l'enquête intitulée « Les Français et les représentations sur le viol et les violences sexuelles ». Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique, émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. À samedi prochain.